Vous écoutez
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs bien sûr, l'after qui continue avec vous pendant toute cette période sans football et uniquement sur RMC, à la radio, on sera de retour à la télé quand la chaîne RMC Sport News reprendra l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense, tout va avec bien sûr en télétravail comme tous les soirs Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Il est également lui aussi chez lui, confiné. Pierre Ducrot est avec
travail.
Nous. Radio Travail. Ah oui, c'est vrai.
Radio Travail. Télétravail, du coup. Eh oui.
C'est vrai. Et oui, c'est Pierre Ducrot. Salut Pierre. Et il est de retour ce soir après un week-end qu'il va nous raconter.
Hein. Il fait des week-ends de 3 jours. Lui.
Jérôme Rotten, bonsoir.
Salut à tous. Déjà, c'est pas un week-end de 3 jours. Si t'écoutais, même quand tu bosses pas vendredi, l'after, j'ai fait vendredi.
Eh oui.
Voilà, donc ça fait 2 jours comme toi, t'as eu vendredi et samedi, non?
C'est nouveau, dis donc.
Ouais, et puis là, messieurs, ça va ressembler à des week-ends de 5 semaines bientôt. Donc. Ne chipotons pas.
Je ne savais pas qu'il avait changé ses jours, le petit.
Non, mais il n'y a plus, malheureusement, Rotten Régal, pour l'instant, il n'y a plus. Donc, du coup, Jérôme fait l'after vendredi soir. L'after, il gagne en qualité, tu vois.
Avant, il régalait à 18h, on a, il rigole à 22.
Là, c'est plus le même after le vendredi soir.
Jérôme, depuis que tu fais Rotten Régal, t'as arrêté l'after le vendredi soir?
Non, mais je l'ai jamais fait le vendredi soir.
Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, sinon, t'aurais été capable d'enchaîner les deux quand même.
Non, je laissais ça à la Ligue 2, tu vois, mais.
J'attendais que ça. La pierre s'était tendue.
Messieurs, l'événement du soir dans l'after, c'est l'union des clubs de Ligue 1 qui vacille. Et oui, les présidents de clubs n'ont pas besoin de se rencontrer sur le terrain pour se déchirer. Je vais vous raconter tout ça et puis on débattra ensemble de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures à la Ligue de foot professionnelle qui organise nos championnats. Et on vous attend au 32-16, bien sûr, pour débattre. Également au programme, Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui lui veut profiter du coronavirus pour faire des réformes de fond dans le football. On en parlera d'ici une demi-heure. À 23h, une nouvelle chronique. C'est vous qui nous l'avez proposé sur le hashtag Mon After. Ça s'appelle Mon Football Idéal. On devait commencer hier avec Lionel Charbonnier, mais finalement, on commencera ce soir avec Pierre Ducrot, qui fera ses propositions à lui pour son football idéal. Et voilà. Attention, ça va envoyer. Autre proposition que vous nous avez faite sur le hashtag Mon After, le retour des After Stories. Hier, on a fait Auxerre 96 avec Lionel. Ce soir, on fait les deux finales de coupe du PSG en 2008. Période Jérôme Rotten, s'il vous plaît. Donc attention, ça va envoyer de l'anecdote, hein, évidemment. Mickaël Landreau, si tu nous écoutes, bien sûr. Tu es le bienvenu, le 32-16 est ouvert. Le quiz à 23h40, Julien Cazard nous rejoindra tout à l'heure à 23h. Et puis si on a le temps, on se fera également un petit after story sur la Sampdoria 92 avec Sibaudet. Mais ça, c'est si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on le fera demain, on a tout.
C'est dommage, c'est bien.
Bah oui, tu sais, l'after, des fois, tu pars dans des débats, tu sais quand il commence, tu sais jamais quand il s'arrête. C'est un peu le principe de l'after. Daniel, tu sais bien. Jérôme, raconte un peu ton week-end là. T'es sorti faire tes courses, t'es resté à la maison?
Non, j'ai pas bougé.
T'es pas sorti de chez toi du week-end?
Non,
je respecte le confinement à la lettre.
J'avais fait les... Non. J'ai le jardin, donc ça va. Mais je suis pas sorti du tout. J'avais fait mes courses vendredi, donc samedi, dimanche et aujourd'hui, confiné à la maison.
Bon.
Et Jérôme, quand on est confiné, la sortie au supermarché, ça devient un truc de dingo. Hein.
Ah, c'est un truc de fou.
Ah, ça devient génial.
Pourquoi?
Ah, bah, quand tu peux pas bouger du tout de la journée.
Ah oui, tu veux dire, c'est le bonheur d'aller au supermarché, c'est ça que tu veux dire.
Le supermarché, mais je suis en kiff. Je fais la queue dehors avec tous les autres.
Tu veux dire que t'es du style à rester à un quart d'heure devant les cornichons?
Non, c'est d'abord, tu restes un quart d'heure dehors minimum à un mètre de distance des autres, tu fais la queue.
Pour rentrer dans le supermarché.
Mais c'est pas gênant. Jamais de ma vie j'aurais pu penser faire la queue à un supermarché. Et j'attends, c'est cool, je suis dehors et tout, je regarde les gens et dis, ah, ça va être mon tour, j'ai mon petit masque et tout ça. Puis après je rentre à l'intérieur du supermarché et puis forcément il y a plus de place que d'habitude. Et là, voilà, t'as le choix et tout, tu fais tes petits choix et t'as l'impression que ton après-midi est illuminé dans le supermarché. Avant c'était banal, maintenant c'est ma sortie, maintenant c'est mon petit kiff de la journée.
Donc t'as fait ça aujourd'hui là?
Bah oui, faut, voilà. Bah oui, j'ai rien fait d'autre de mieux, mon vieux. J'ai fait pas mieux. J'ai pas mieux à te proposer. Je pourrais bien te parler.
On est comme tout le monde.
Je pourrais bien te parler du tournoi de poker que j'ai fait à 17h dans lequel j'ai fait deuxième et qui m'a rapporté 2-3 ronds. Mais c'est tout, quoi.
Ah, bravo.
Voilà.
Et toi, Pierre?
Moi, j'ai été ramener mon fils chez sa maman, donc j'ai été obligé de sortir.
Ah, tu avais la case 3 sur la demande d'autorisation, voilà, c'est la case 3.
Exactement. Ma petite attestation avec moi. Oui. On a limité les risques. On est monté très vite dans la voiture. Voilà, je l'ai déposé, je suis rentré. C'est ça. Et je suis resté.
Choix 3 sur l'attestation, je le connais celui-là.
C'est ça. Mais sinon, comme Daniel, tu vois, pas grand-chose de plus fun à te raconter, Gilbert, désolé.
Enfin, moi, aujourd'hui, justement, j'ai coché deux cases parce que ma sortie, elle comprenait deux trucs. J'ai cru que si je me faisais contrôler par les flics, j'aurais un souci parce que je savais pas quelle case
cocher. Deux cases, je crois que. Ouais.
Ouais, mais comme je faisais deux choses en même temps, la case courses et la case enfant,
je crois qu'il faut que t'en fasses une pour chacun, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah, bah heureusement que j'ai pas été contrôlé, je savais pas.
Ah, bah là, t'as frisé les 135 euros, mon vieux.
Merde. Ouais, c'est pour ça que j'ai coché les deux, j'ai dit. Bon, voilà.
Ouais. Il s'est dit, je vais faire les économies de papier, je vais cocher deux cases.
Ouais. Ah, mais quelle race.
Non, franchement, c'est que je ne savais pas. C'est par ignorance que je l'ai fait. Ouais.
Bon, alors, après ces journées trépidantes que l'on connaît sur tous en ce moment, on va passer donc à ce qui s'est passé à la Ligue. Parce qu'à la Ligue, en revanche, là...
Moi, je progresse au poker, en tout cas.
Il y a des journées trépidantes à la Ligue. Je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est assez... Enfin, entre aujourd'hui et hier, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que...
Ce week-end, ça a commencé le week-end.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte quand même qu'on a une capacité dans le foot français à se mettre sur la tronche, même quand il ne se passe pas grand-chose.
Excuse-moi, mais tu l'avais remarqué dès le début de toute cette affaire.
Oui,
dès le lendemain, Ola, ça avait ouvert la voie. Donc derrière, d'autres ont suivi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait d'abord hier. L'initiative vient vraisemblablement, selon toutes les infos qu'on a, de Bernard Caillazot, qui est le patron de...
Le chef du syndicat.
Voilà, le chef d'un des deux syndicats, du syndicat Première Ligue.
C'est le Jimmy Hoffa du football français.
Ouais.
Oui, je ne sais pas si la comparaison lui plaira, mais enfin bon. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'initiative, Bernard Caillazot, de réunir un petit groupe de personnalités du foot, voilà, pour faire un petit comité de suivi, quoi, voilà, une petite task force en quelque sorte, un groupe de travail pour commencer à préparer la suite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Didier Quillot, il a appelé Le Graët. Dans ce groupe de travail, il y a également Claude Michy, qui représente l'autre syndicat, l'UCPF. Et puis, les trois présidents des clubs, des clubs les plus populaires et puissants, à savoir le PLM, Nasser El Khelaïfi, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault.
C'est déjà bien qu'ils aient convoqué Michy, parce que Michy, il est plutôt du côté des descendants, normalement, qu'on calcule pas trop, hein. C'est un peu le plouc de province, hein.
Ou alors c'était pour se donner bonne conscience. Tu vois, peut-être. Bon, en tout cas.
Oui, tu as certainement raison avec cette version-là. Oui. Genre, tiens, vas-y, on va faire venir le paysan, là, comme ça, il ne pourra rien nous dire, les cendants.
Je précise quand même
je suis exprès ironique. Hein,
voilà. Moi, je précise, étant moi-même de province, je suis assez fier d'être un plouc.
C'est pour dire que je suis ironique par rapport à ce
Bien sûr, on l'avait compris. Donc, tous ces gens-là se sont réunis hier. Et là, quand ça a commencé à se savoir, tout le monde s'est énervé. La première à s'énerver, ça a été Nathalie Bois de la Tour qui a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, messieurs, moi je cautionne pas.
Elle a été
pas.
Énervée parce que tout le monde l'a appelée. Hein. Ils ont tous appelé la maîtresse un peu. Hein.
Bah oui, bah.
Maîtresse, ils ont fait une réunion dans leur coin, ils nous ont pas prévenus.
Exactement. D'autres responsables de clubs, Monaco, Montpellier, Rennes, se sont aussi étonnés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui êtes-vous pour faire ça? Du coup, évidemment, remous toute la soirée d'hier en petit comité. On n'était pas au courant hier soir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La Ligue a réuni en urgence son bureau. Donc, suite à tout ce qui s'est passé là, enfin à cette initiative, pour en fait recréer une union, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, donc cet après-midi, le bureau de la Ligue s'est réuni. Alors attention, le bureau de la Ligue, j'ai la liste des membres sous les yeux. C'est beaucoup plus large que ce petit comité qu'avait réuni Bernard Caillazot. Dans le bureau de la Ligue, il y a Nathalie Bois de la Tour et Vincent Quillot, et Didier Quillot. Il y a également les représentants des familles du foot, ce qu'on appelle les familles du foot. Donc il y a Philippe Pia qui représente les joueurs avec l'UNFP. Il y a Repelili, notre ami Pierrot, Repelili, qui représente les entraîneurs. Il y a Patrick Crasurel. Alors lui, c'est le syndicat des administratifs. Ça existe aussi dans le foot. Les administratifs, c'est, je sais pas, tous les gens qui bossent dans les clubs, les DG, voilà, tous les gens qui ne sont pas liés aux sportifs. Il y a donc les présidents de
clubs. Les arbitres.
Ah, non. Alors attends, Ah non, les arbitres, je ne sais pas. Tiens, ils ne sont pas dans le bureau, les arbitres.
Ah ouais ?
Bah non. Ah non, ils ne sont pas. J'ai la composition sous les yeux. Ah, il y a non, les présidents de clubs suivants. Okay. Il y a Nasser El Khelaifi, Jean-Pierre Caillot, Chaban, Hérault, Joannin, Kita, Laurent Nicolin et Kayazo. En plus de ça, il y a...
Chaban, en ce moment, ouais. pas trop là. Quoi. Il a d'autres soucis.
Bon, en tout cas, il fait partie du bureau. Alors après, est-ce qu'ils étaient tous présents cet après-midi ? J'en sais rien. Il y a également Francis Graille et Claude Michy, donc, qui représentent la Ligue 2 et l'UCPF. Il y a également le représentant des indépendants, Vincent Labrune. Il est là, dans le bureau de la Ligue, Vincent Labrune.
Il a toujours un poste. Hein,
voilà, représentant des indépendants et le représentant de la Fédération française de football, qui est Michel Denisot. Messieurs, qui donc fait partie du bureau de la Ligue professionnelle. Voilà, voilà donc on a un groupe qui est en gros trois fois plus important que le mini-groupe qu'avait constitué Bernard Caillazo hier soir. Et donc, qu'est-ce qui... Avant qu'on débatte, je vous donne toutes les infos pour finir. Finalement, de la réunion de cet après-midi, il y a la réunion a accouché d'un communiqué dont je vous livre quelques éléments. Donc la Ligue a étudié les conséquences sportives machin cet après-midi. Bon, c'était pas du tout prévu qu'ils se réunissent. Hein. Ils se sont réunis une nouvelle fois par rapport à ce qui s'est passé hier. Ce bureau de la Ligue explique que désormais, ce bureau sera comité de pilotage. Il sera comité de pilotage sur toutes les actions à venir concernant les scénarios de reprise, la trésorerie des clubs, le dialogue social. Voilà. Donc en gros, la désunion d'hier soir a réabouti sur une union qui peut-être n'est que de façade ce soir. Voilà tout ce qui s'est passé en 20 ans. Mais c'est quand même fantastique le foot français, non ?
Ouais. Ouais, genre, je ne sais pas si c'est que le foot français, parce qu'en Italie, il y a aussi pas mal de choses qui se passent. C'est peut-être pas exactement la même chose, mais je crois qu'il y en a qui perdent la tête, ou en tout cas qui veulent aller un peu trop vite dans le contexte actuel.
Bah alors en fait, pour vous compreniez bien, parce que là, quand je raconte tout ça, on pourrait vous dire, mais attendez, finalement, c'est quoi l'intérêt ? On ne comprend rien et tout. Mais si, en fait, les clubs qui n'étaient pas invités hier, ils se sont dit, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans notre dos, en fait ? Voilà, c'est comme ça que les autres ont réagi.
Oui, mais écoute, en disant, en fait,
est-ce qu'ils veulent nous arnaquer sur la redistribution des droits ? Est-ce qu'ils veulent essayer de nous arnaquer sur les risques budgétaires et tout ?
Non, mais ça, tu peux pas le voter comme ça. Ça a déjà été dealé, là, l'histoire des droits et tout. En fait, on en revient toujours un peu à la même histoire. De toute façon, il y a toujours eu au sein de ce... Je sais même pas comment appeler ça, de commission au sens large. Il y a toujours eu ces dissensions entre, on va dire, les gros, les petits. Les gros sont minoritaires et ont toujours chercher à imposer un petit peu leur loi aux plus petits. Ça me rappelle un peu le débat qu'on avait eu au moment, tu sais, de la disparition de la Coupe de la Ligue, où certains l'avaient un peu décidé et d'autres avaient plus ou moins participé. C'est qu'il y a des présidents qui sont convaincus que de toute façon, le pouvoir que leur donne leur club leur donne une voix plus importante, parce que c'est grâce à eux qu'il y a plus d'argent dans le foot, c'est grâce à eux que la Ligue 1 vit, et qu'en gros, les autres, bon, bah, c'est un petit peu des sparring partners. C'est pas du mépris, c'est pas de la condescendance, ça y ressemble un petit peu. Et en gros, ça partait de l'intention, si jamais, vu la situation actuelle, il faut qu'on se mette tous d'accord, ça va être beaucoup trop le bordel. Donc, réunissons-nous d'abord un petit peu, on va dire, les tauliers, les gros, essayons de déblayer le terrain, et puis après, on soumettra aux autres, parce que de toute façon, les autres, ils vont être d'accord avec nous, parce que de toute façon, le blé, c'est nous qui le faisons.
Enfin bon, ça donne quand même une image assez...
Maintenant, moi, j'ai toujours été...
On se réunit entre puissants, et en fait, vous emmerdez, quoi.
La forme est pas... Mais maintenant, moi, j'ai toujours été... Depuis que je m'intéresse à comment ça fonctionne de l'autre côté, notamment au moment des droits, moi j'ai toujours été emmerdé. Je n'arrive jamais à avoir une idée claire sur la position que je prendrais si j'y étais. Si j'étais président d'un club important, je t'avoue, tu sais, des fois j'essaye à la place de l'OM, de l'OLPG, je me dis, qu'est-ce que tu ferais si t'étais dirigeant Oui, il faut que tout le monde ait de l'argent et tout, parce que sinon ça crée une compétition distendue. Et d'ailleurs, même les Anglais
là, ce que tu dis, en
ne
fait,
font
pas
ça.
C'est une posture idéologique. C'est...
Non, pas tant que ça.
Ça ramène à ça.
Non. Mais même les Anglais non, sont toujours restés plutôt dans l'égalité pour que tout le monde croque dans le gâteau, machin. Mais il n'empêche que d'un autre côté, c'est pour ça que je te dis, je suis toujours un peu le cul entre deux chaises. Moi, je crois que je serais parfois un peu agacé. Je me disais, ah, putain, les gars, arrêtez de nous faire chier, là, les petits machins. De toute façon, c'est nous qui faisons tout. Si on n'est pas là, vous faites rien du tout. Donc, laissez-nous un petit peu avoir une voix.
Mais là, les petits, ils font chier personne, là.
Non, je sais. Là, je dis en général. Dans le fonctionnement global. Là, t'as raison, Jérôme. C'est même pas, ils font chier personne. C'est genre, fermez vos gueules, on vous
comprend
même pas. Je suis d'accord avec toi. Mais je parlais plus globalement dans le fonctionnement du foot. J'essaye un peu de me mettre à la place des dirigeants, tout ça. J'avoue que je ne suis pas forcément cohérent. Je n'arrive pas à trouver la bonne solution. Moi, quelque part, je peux un peu comprendre l'effort qui disent, mais mine de rien, c'est nous qui la faisons tourner, la boutique. Quoi. Donc, si on peut faire une réunion qui dure une semaine plutôt que trois mois avant qu'on se mette d'accord.
Tourner. En même temps, tu n'as pas de Ligue 1 sans les petits. Hein.
Oui, Gilbert, tu ne peux pas dire ça.
Gilbert. Tu n'as pas la Ligue 1, ça ne fait pas à 4.
La Ligue 1, elle tourne et l'oseille rentre grâce au gros. Il ne faut pas être faux cul non plus.
Non, mais que t'es des présidents
oui, par rapport à leur... 4,
c'est mais sans, les, sans, sans, sans les 4 gros clubs, les droits télé, c'est même pas 100 millions par an. Qu'est-ce que tu racontes, Gilbert?
Attends, tu comprends bien.
Il joue pour des haricots et des lentilles s'il n'y a pas les gros.
Mais attends.
Et ils se font une soupe entre eux.
Non, mais arrête un peu, parce que toi, ce que tu dis, c'est en gros, les petits, vous n'êtes là que pour être les faire valoir, pour qu'on vienne vous coller des danses le week-end.
Et soyez bien contents qu'on vous donne les miettes. Justement, je n'arrive pas à avoir une position claire. Non. Je comprends qu'il y ait un rôle
égalitaire.
Mais de toute façon, Gilbert,
de toute façon, il y a des différences puisque les gros jouent la Coupe d'Europe, puisque les gros sont plus diffusés.
Il y aura des différences. Après, c'est vrai que ça peut choquer le fait qu'ils se réunissent comme ça en petit comité et surtout quand tu me donnes les noms de cette fameuse réunion. Il y a des mecs qui ont rien à foutre là, quoi. Ce que je veux dire, c'est pas parce que t'as eu une histoire dans le football que tu peux donner un avis sur ne serait-ce qu'un arrangement.
Toi, tu veux dire Denisot et Labrune, ça te dérange, c'est ça que tu veux dire?
Oui. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont rien à foutre là, quoi. Ils sont influents de quoi, en fait?
Ils ont un rond de serviette.
Ouais. Non, mais c'est ça, mais bon.
Comme dirait Jacques Maillot, ils ont un steak.
Mais le steak ou le rond de serviette, dans ces cas-là, donne-le aussi au plus petit club et qui participe aussi, même si.
Il participe déjà, Jérôme.
Oui, non, mais bon, là
le règlement prévoit des postes.
Denisot au bureau de la Ligue est le représentant de la Fédé. Donc, c'est normal que la Fédé ait un représentant, puisqu'il y a une tutelle, en fait, entre la Fédé et la Ligue. Ouais. Alors, ça pourrait être quelqu'un d'autre que Denisot, tu pourrais me dire. Ça pourrait être, je sais pas.
Le représentant de la Fédé, c'est homme de Legrette, en gros. C'est espion de Legrette.
C'est un peu ça.
Espion de Legrette.
Mais d'ailleurs, Legrette, dans beaucoup de réunions, il n'est pas dans le bureau, là, officiellement, mais il est dans beaucoup de réunions, concernant la Legrette,
ok. Et Denisot, même si c'est représentant de la Fédé, ok.
Denisot, il connaît un peu le foot quand même. Donc moi
il connaît le foot.
Après, sur la Brune,
il y en a d'autres qui connaissent le foot. Hein.
Non, mais sur la Brune, je t'avoue que représentant des indépendants, je sais pas trop ce que ça veut dire ça.
Ça veut tout et rien dire en fait. Mais bon, écoute, il doit être content avec ce steak là, voilà. Voilà.
Alors maintenant, je vous pose une autre question quand même, parce que il y a évidemment la problématique du versement de la dernière part des droits télé qui doit se faire. Et c'est pour ça surtout que les clubs veulent absolument finir la Ligue 1, parce que si la Ligue 1 ne se finit pas, le dernier versement des droits de l'année ne se ferait pas et tous les clubs se retrouveraient bien emmerdés, puisque les droits télé représentent pour certains clubs près de 60% du budget global.
Bien sûr. Et c'est quoi la somme là? C'est une somme énorme. Hein,
là, c'est 200 millions le dernier versement que les clubs attendent.
Pardon, mais.
Mais moi, je pose quand même, il y a un truc. Nasser El Khelaïfi, il n'y a pas un peu conflit d'intérêt, les gars, là? C'est-à-dire que Nasser El Khelaïfi, il est à la fois patron de Beansport, donc un des deux ayants droit qui paye la Ligue 1, et en même temps président du PSG, et présent dans toutes ces réunions. Enfin, moi, je sais pas, ça vous.
C'est pas nouveau, Gilbert.
Oui, non, mais c'est pas nouveau, mais ça.
Aujourd'hui, c'est en fait.
Oui, non, mais ça vous dérange. Vous trouvez pas qu'il y a un conflit d'intérêt, là?
Alors, c'est déjà.
Il y a clairement un conflit d'intérêt.
Oui, alors, déjà, c'est nettement moins un conflit d'intérêt qu'à l'époque Canal. Ou alors là, c'était au-delà de tout. À l'époque Canal, et il y avait des arrangements, Canal achetait des droits imaginaires à l'OM. Ah,
Canal était seul sur le marché à l'époque. Hein.
Oui, mais il n'empêche que là, c'était genre vraiment, on dirige comme on veut, on donne des droits à qui on veut, passons là-dessus, parce que
c'est ce que j'allais dire, les droits TV, là, c'est pas que lui qui décide comment ça va être redistribué.
Voilà, là et aujourd'hui, le conflit, il est... Alors déjà, dans ces réunions-là, l'influence du PSG, elle est assez mineure. parce que sont plus les autres. Enfin, Nasser Al-Khelaifi, il n'est pas méga actif, un peu plus ces derniers temps, mais c'est quelqu'un qui s'est toujours tenu un petit peu en retrait de ça. Et là,
mais volontairement, Daniel, je pense justement.
Oui, justement.
Déjà, je ne sais pas comment il fait avec les 1000 casquettes qu'il a.
Ah, mais ça, de toute façon, les 1000 casquettes qu'il a, c'est pas normal. Déjà, c'est pas normal. Il a beaucoup trop de casquettes. Je sais pas. En fait, il ne fait que des délégations, envoyer des mecs à sa place et tout. Après, là, je vois pas trop où est le problème, parce que de toute façon, Bein a participé à des appels d'offres et a fait rentrer plus d'argent pour la Ligue 1. Donc, en gros, tout le monde en a profité. Bah, donc, les présidents.
Mais justement, lui, il peut arriver à la réunion en disant hey, les mecs, c'est moi qui paye là. Donc, c'est moi qui décide.
Oui, mais alors, d'abord il paye pas
comme ça, Gilbert.
D'abord, ouais. D'abord, il paye pas tout seul. Deux, il ne fait pas ce que tu dis. Et trois, bientôt, il ne sera plus beaucoup acteur, puisque c'est Mediapro qui va devenir acteur principal en oseille de ça avec Canal. Et Canal est un peu associé, et maintenant associé à Bein. Donc, tout le monde croque dans le gâteau. Il n'y a pas réellement de. Enfin, si conflit d'intérêt il y a, il cause de préjudice à personne, en fait.
Bon voilà en tout cas ce qui s'est passé aujourd'hui, on voulait vous le raconter, hein, c'est l'actu du jour qui nous arrive. Dans l'actu du jour, ça n'a rien à voir, mais j'ai deux, trois choses encore importantes, enfin ou pas. Vous savez qu'il y a des championnats qui continuent, hein. L'Australie continue à huis clos.
Biélorussie, ça s'est arrêté ou pas?
Ah non, la Biélorussie continue là.
Tu m'as pas donné le résultat du Dynamo de Minsk, alors ils ont fait quoi finalement?
Ah bah aujourd'hui je savais qu'il n'y avait pas de match, mais ce week-end je t'annonce qu'il
est battu. Borisov a perdu.
Il y a quelques dingos de Paris qui sont allés parier sur des clubs improbables de.
Jérôme, t'as pas vu le battre Borisov ce week-end? Oh là là, quelle défaite!
Ils ont perdu.
Inattendu, ouais. Franchement. Ouais.
On joue encore en Malaisie aussi.
Ils ont du mal à repartir là.
Non, ils ont du mal, battre Borisov. C'est plus le battre qu'on a connu.
Non.
Et puis je vous signale.
C'était qui celui qui jouait au battre là, qui était.
Leb
qui venait de Arsenal.
Ah, Alexandre Gleb, oui.
Ouais, qui était Arsenal, Barcelone.
Quand même, lui, hein.
Non, ben oui. Ouais, il pourrait encore, je crois.
Alors, dans l'actu du jour, on va en parler dans quelques instants avec Simone Rovera, parce que c'est lié. Il y a certains présidents de clubs qui profitent de la crise du coronavirus pour faire des propositions. Alors, Infantino l'a fait, et Bernard Joana aussi. Alors, il n'a pas le même niveau de pouvoir dans le foot mondial que Infantino, hein, Joana.
Ouais.
Ah bah dans l'Oise, non,
oui.
Dans la Somme, oui, mais Joannin, lui, il s'est positionné aujourd'hui dans le courrier Picard et il veut un salary cap en Ligue 1 comme en NBA ou en Top 14.
Superbe.
Pardon, redis-moi ça.
Je dis Joannin dans le courrier Picard aujourd'hui, dit qu'il propose un salary cap en Ligue 1 comme ça se fait en NBA ou en Top 14.
Et qui le décide et sur quelle base?
Voilà, alors il dit 70% de nos charges, je te dis, cela doit nous imposer une réflexion sur l'essence de notre système, donc le coronavirus. 70% de nos charges sont constituées par notre masse salariale et nos efforts de réforme doivent être axés sur ce secteur. On doit s'inspirer de la NBA. En gros, il veut baisser le pourcentage de la masse salariale sur son budget.
Oui, mais en fait, c'est une aberration dans le sens où...
ça fait bien marrer Pierre, je crois.
Mais non, en fait,
parce que c'est sorti de tout un système et ça ne peut pas marcher, quoi.
Qu'en fait, ça ne pourrait fonctionner si tu n'avais pas de concurrent hors France qui ne pratiquait pas la même règle.
Et voilà.
À partir du moment où certains clubs sont en concurrence avec des pays ou qui ne sont pas soumis à
cette
règle.
Faudrait une harmonisation mondiale
déjà,
là-dessus, quasiment.
Et d'ailleurs,
messieurs, les règles en MLS commencent à changer et vont dans un sens d'assouplissement de ce salary cap avec de plus en plus de joueurs autorisés à gagner un petit peu plus en dehors du salary cap, etc., etc. Donc, parce que très, très clairement, la MLS veut peser un tout petit peu plus, sur le marché européen pour pouvoir ramener des joueurs.
Avec et tous les mecs soumis aux mêmes règles, tu peux déjà que là, la France souffre parfois d'une distorsion des fiscalités. Si en plus t'imposes un salary cap et que tu peux pas suivre.
Mais Saint-Etienne l'avait fait à une époque.
Ouais, bah ça a vite explosé.
C'est pas un vrai salary cap, ça c'est quelque chose interne à eux.
Non, ils avaient une stratégie à eux de salaire, ouais.
Exactement, mais quand même.
Voilà, qui était pas d'ailleurs respecté, Jérôme, attention.
C'est
ce qui était annoncé partout, mais t'avais des joueurs qui étaient en dehors de la
ligue. Oui, bien sûr.
Messieurs, dans quelques instants on revient et on ira voir Simone Rovera. Pourquoi? Parce que Gianni Infantino a donné une longue interview à la Gazzetta dello Sport et lui aussi il fait des propositions. On va en débattre ensemble. Voilà, c'est la période. Chacun profite un peu de tout ça pour se dire tiens, et pourquoi est-ce que ce serait pas l'occasion d'un grand chamboulement de nos compétitions, de notre façon de voir le foot. Gianni Infantino, vous saurez tout avec Simone dans quelques instants. Bougez pas, l'after revient tout de suite. Et puis le hashtag mon after est toujours là, hein, pour nous envoyer vos propositions. Tiens, genre la dernière que je reçois là. voilà, on en reçoit tout le temps. Hein. Ah ben, je l'ai perdu. Ah bah c'est malin, je la retrouve tout de suite et je vous la lis dans quelques instants. Il y a tellement de messages qui arrivent que du coup ça s'est perdu. Mais à tout de suite, je l'aurai retrouvé. On se retrouve dans quelques instants dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Jérôme Roten, bien sûr, en radio-travail depuis chez eux. J'ai retrouvé la proposition du hashtag Mon After, c'est Michel qui nous disait « J'aimerais bien que vous fassiez un sujet un jour sur nos grands joueurs. Quel a été, selon vous, leur meilleur match absolu ?» Tu vois, le meilleur match de Zidane, de Messi, de Ronaldo, de Maradona, tout ça. Ça peut être marrant. Bon, à travailler, à réfléchir. Et puis sinon, dans les messages, j'ai également Erwan qui nous dit El Rey Laifi a peut-être beaucoup de casquettes, mais il n'a pas la casquette Nissan.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Eh oui.
Celle-là, il l'a pas.
Bravo, Erwan. Celle-là, il l'a pas. Elle est chez Doumé Poulain et elle ne bouge pas. Il nous a envoyé la photo l'autre jour, hein, elle est magnifique. Simone Rovera nous rejoint. Salut, Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Simone. Comment va le moral, Simone?
Salut, Simone.
Bah, écoute, ça dépend. Il y a des jours plus longs, d'autres qui passent un peu plus vite. Aujourd'hui, je suis sorti, je devais faire un petit voyage pour des raisons importantes, on peut dire, celles pour lesquelles on peut sortir de confinement. Uh-huh. Et donc, ça a été une journée qui était longue, commencé très tôt et je suis sorti, je peux dire, j'ai fait 150 km entre aller-retour de Turin. Ouais, je suis allé vers chez mes parents et j'ai vu sincèrement personne. Et bon, j'ai jamais été arrêté, il n'y avait pas de contrôle, etc. J'avais tous les auto-certifications écrites, tout était prêt, si quelqu'un me demandait. Mais non, il y a beaucoup de contrôles, 100 000 en Italie, depuis le début du confinement, depuis le 11 mars. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas vu de police.
Oui, en Italie, l'amende est largement plus salée qu'en France, hein.
C'est 160, si je ne me trompe pas. C'est un peu plus salé que.
Ouais, et s'il y a récidive, c'est inscription au casier judiciaire.
Oui. Après, bon, en Italie, on a des personnages. Moi, je voudrais faire une top 10 de les raisons les plus débiles pour être sorti du confinement. Il y a douloureux en Italie. Je peux vous dire que les plus cons pour moi, c'est un homme de 31 ans. Qui est sorti pour aller jouer à Pokémon Go. Vous savez, les jeux de l'iPhone pour attraper les Pokémon.
Ça existe encore, ce truc.
Ouais, chef.
Et voilà. Là, il s'est ennuyé tellement qu'il est sorti dans la province de Como.
Et il l'a dit, ça? Quand il s'est arrêté, il a dit « je suis en train de faire ça ».
Non, mais... Il pouvait inventer un truc... Attends, 33 ans, à Florence, arrêté, était dans la voiture, les flics l'arrêtent, qu'est-ce que vous faites? Il avait l'auto-certification écrite en disant « je suis ici parce que je cherche de la drogue ». Je n'ai besoin, je vais trop mal. Il a écrit son auto-certification. C'est des génies, moi. C'est incroyable. Il faudrait faire une after sur ça. Je pense que
les excuses.
Des raisons débiles.
J'avais besoin de drogue.
Ah ouais. Bon. On en voit qu'ils commencent à sortir leur chat aussi. Simone, j'espère que tu ne fais pas ça. Hein.
Non, il y a une petite terrasse, il sort toute seule.
Le chat avec la laisse, ça marche pas.
Ouais.
Évidemment, on va parler foot avec toi, Simone. C'est le but de l'after, hein, de se changer un peu les idées, évidemment, ensemble jusqu'à minuit. Infantino donne une longue interview à la Gazzetta. Et alors, raconte un peu ce qu'il propose, parce que lui, il veut profiter de la crise actuelle pour passer des réformes.
Bah oui, déjà, on sait très bien qu'il y a une lutte des pouvoirs aujourd'hui entre la UEFA et la FIFA. Et Infantino, pour l'instant, même si président de la FIFA, on a l'impression qu'il ne soit pas les plus forts dans cette guerre. Et oui, il a dit très clairement, aujourd'hui, il a parlé à la Gazzetta, c'était son 50e anniversaire. Donc, faut aussi dire que c'était un entretien organisé pour ça. Mmh. Et donc oui, il dit qu'il voudrait faire peut-être profiter de ça parce qu'il y a trop de matchs, il y a trop de compétitions aussi, il dit. Et ça pourrait être l'occasion.
C'est lui qui en crée des compétitions là, avec son Mondial des clubs notamment.
Oui, après il y aura les Mondial des clubs nés sur une Mondial de clubs qui existe déjà. Et l'idée c'est de faire devenir un événement qu'il y a une fois chaque 4 ans. Mmh. Lui peut-être, je suis sûr qu'il en veut à Čeferin et la nouvelle Coupe d'Europe. Qui est pour les clubs moins bien classés dans les grands championnats.
À la troisième Coupe d'Europe, là.
Ouais, bien sûr. C'est sûrement pour ça.
Il dit quoi d'autre alors, là? Parce que je suis un peu étonné, moi, par cette sortie d'Infantino, là. Il dit autre chose ou simplement ça, Simone?
Non. Bah, alors, lui, il parle. Lui, il dit, il veut mettre son message, c'est clair, c'est-à-dire que la FIFA, c'est l'organisme le plus important. C'est-à-dire, il dit, nous, on est les seuls qui fait la seule organisation qui fait avoir de l'argent aux fédérations. Il rappelle ça. C'est vraiment pour moi une prise de position contre la UEFA et contre Seferin. Tout ça, il est.
Allô. Il est. On t'entend, Jérôme. T'inquiète, t'es là.
Ah ouais. Non, mais ça va être coupé.
Ah bah écoute, tu es de retour, on t'entend bien.
Ok.
C'est ça le radio travail, c'est des fois ça.
comme Daniel la dernière fois, ça avait explosé.
Ah non, tout marche, tout fonctionne.
Bon, ça va.
Vas-y Simone, continue.
Il a des idées aussi de qu'on peut dire, il parle pas de fair play financier, mais il parle un peu de relancer même à niveau économique certains clubs. Quand il dit qu'il a l'espoir de voir dans l'avenir au moins 50 sélections nationales qu'on a la possibilité de gagner la Coupe du Monde et pas seulement 8 d'Europe et 2 sud-américaines, ça me semble un peu exagéré. Et là aussi,
il fait de la petite politique politicienne pour faire plaisir à ses membres, en fait. Non
bah, franchement, c'est genre, je me suis réveillé, c'est triste dehors, je vais faire une interview larmoyante, genre tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il s'est cru à Disneyland, quoi.
Et quand il va toucher les foot européennes, l'UEFA, etc., il dit. Que pour gagner sa Ligue des Champions, son projet des Coupes du Monde du club, il doit avoir plusieurs clubs qui ont la possibilité d'y participer et de gagner, pas seulement comme aujourd'hui, en faisant comprendre un peu que la UEFA, que la Ligue des Champions, c'est un peu trop fermé là aussi. Donc, pour moi, c'est un vrai prise de.
Il veut montrer que c'est lui qui a le pouvoir final sur l'UEFA.
Infantino va quand même pas nous jouer. Celui qui d'un coup veut qu'il y ait moins de matchs, alors que ça a souvent été dans son intérêt qu'il y en ait plein, et il était il y a deux mois prêt à créer deux nouvelles compétitions. Il va pas nous
plus jouer... l'agrandissement de la Coupe du Monde, Daniel, n'oublie pas.
Plus l'agrandissement de la Coupe du Monde, il va pas nous jouer. Je comprends pas, c'est quoi cette espèce d'interview de révolutionnaire en culotte courte.
Il y a
quoi? Il y a une prise de conscience soudaine. C'est fini. Il veut plus de business. Comment il va imposer ça à tout le monde?
Ouais. Et il y a un truc, Jérôme et Pierre, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, tous les dirigeants, ils arrêtent pas de te dire, il faut moins de matchs. Mais enfin, dès qu'il y en a de moins, on crie l'impact économique. Donc, en fait, c'est totalement schizophrène.
C'est surtout très hypocrite ce qu'il dit là, parce que c'est à l'inverse de tout ce qui est mis en place et lui en premier depuis plusieurs saisons. Donc, je comprends pas. En fait, s'il veut vraiment réduire le nombre de matchs, s'il veut vraiment réduire qu'il réduise déjà le nombre d'équipes en Ligue des Champions, ça fera des matchs en moins, pareil en Europa League, c'est ce dont il parle là maintenant, aujourd'hui, quoi, ou qu'il réduise effectivement le nombre d'équipes des compétitions de Coupe du Monde, alors que là on va vers l'inverse. Donc je comprends pas en fait le but dans son interview,
parle du crise qui risque de devenir irréversible. Donc le foot va vers une crise qui risque de devenir irréversible.
C'est le moment de rajouter une crise sur la crise, tiens, c'est bien joué.
Les mots-clés sont moins des tournois, mais plus intéressants. Peut-être moins d'équipes, mais plus équilibrées. Moins de matchs pour protéger la santé des footballeurs. C'est pas science-fiction. Il faut en parler. Là aussi, il faut en parler avec qui? Il faut en parler avec.
Simonet, la multiplication des matchs qu'on peut dénoncer, qu'on peut trouver exagérés, qui fatigue les joueurs, elle est réelle. Mais il n'empêche que. Tout le monde y a toujours trouvé son compte. D'une façon ou d'une autre, dans ce grand business et dans ce gros gâteau, tout le monde croque du joueur aux dirigeants, aux fédérations, en passant même par les arbitres qui, quand ils arbitrent, sont payés, si tu veux élargir au plus possible. Après, il y a une hiérarchie qui se met en place. Tu peux inventer toutes les petites compétitions que tu veux. Prenons juste à l'échelle de la France. Quand est arrivée la Coupe de la Ligue, qui est arrivée en gros comme la troisième compétition. Est-ce que, quand elle est arrivée, alors que les gens se plaignaient, ça fait trop de matchs, ça fait ceci, ça fait cela, est-ce que finalement, elle n'est pas restée, au final, la compétition la moins intéressante, celle que qui en gros valait le moins pour les connaisseurs de football. Et ben de la même façon.
Moi, l'édition 2019, je l'ai bien aimé. Hein.
Non, mais d'accord, mais je veux dire, dans l'imaginaire, on savait très bien que c'était exactement comme la League Cup en Angleterre est moins importante que le championnat et la FA Cup. Oui. Donc tu peux les multiplier. Ça me fait penser au tennis. Tu peux mettre, il y a un tournoi par semaine. Il y a même, qu'est-ce que je raconte, souvent trois tournois par semaine. Les gens qui adorent le tennis savent très bien ce que vaut un tournoi 250, un tournoi 500, un 1000 et un grand chelem. Et les grands chelems, il n'y en a que 4 dans l'année. Et c'est là que tout le monde vient et que tout le monde se dépouille pour avoir le meilleur résultat. Donc, ils peuvent les multiplier, les enlever, faire ce qu'ils veulent avec le calendrier. Si moi, je suis dirigeant de club, eh ben, je veux ma meilleure équipe dans les compétitions qui sont importantes. Ça veut dire mon championnat, ma Coupe d'Europe, je fais tourner pour les compétitions que je juge mineures et j'organise mon club en fonction des compétitions, du temps de jeu de mes joueurs, je bosse avec mon entraîneur. C'est une adaptation. Moi, les gens qui chialent sans arrêt dans leur coin, il y a trop, il y a ceci, il y a machin. Mais de toute façon, mets-moi 150 matchs dans l'année, mais le joueur, je lui ferai pas faire les 150. Je lui en ferai faire 40, 45. Et j'agrandirai mon effectif en fonction pour répondre à l'attente. Mais ce qui comptera au final, c'est le championnat. La Ligue des Champions, c'est ça qui comptera. Oui, mais bien sûr qu'il faudra
les moyens. Le président de la FIFA veut avoir...
Mais t'auras plus de rentrée d'argent si t'en as plus.
Oui, oui, mais le président de la Liga veut avoir la compétition la plus importante. Donc cette Coupe du Monde du club, comme il l'appelle, à laquelle il veut qu'il puisse participer et gagner 20 équipes entre Europe et Amérique du Sud, c'est parce qu'elle dit, nous on est la FIFA, on est l'organisation la plus importante. Et au final, on a plus la Coupe du Monde.
Mais parce qu'il veut la vendre. Il veut la vendre et au final...
Et donc il rajoute
des matchs, en fait. Et peut-être qu'au final, les clubs n'iront pas. Parce que ce qu'il sait, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui ne veulent pas aller la jouer, sa compétition. Parce qu'il y a une Ligue des Champions qui est là depuis plus de 50 ans, la C1 et l'autre Coupe d'Europe. Elles sont traditionnelles, historiques, elles ont beaucoup été modifiées, mais il n'empêche qu'elles ont toujours beaucoup de succès dans le football européen. Et que peut-être que ça l'emmerde et qu'il a envie de marcher sur les plates-bandes de l'UEFA et d'avoir sa compétition à lui. Oui, mais il n'empêche que ce qui reste historique pour un joueur, je ne sais pas, vous avez été joueur. Jérôme Pierre, vous avez été joueur. Qu'est-ce qui était le plus important en le championnat? Et quand vous aviez la chance d'être en Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, ça
que Jérôme Antenne donne son avis, il n'a pas pu le faire.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Bon, ben voilà.
Jérôme. Ah, je crois qu'on l'a reperdu.
Et si on te mettait un tournoi de village, Pierre, si on te mettait un tournoi de village, le tournoi de village, tu y allais, mais tu n'y allais pas motivé à 1000%.
Non, mais tu priorises forcément dans ta saison Coupe d'Europe en premier et puis derrière ensuite le championnat et puis derrière les quand t'as la chance de faire une épopée en coupe tu te régales avec parce que t'as rien d'autre finalement. Donc, mais on a toujours priorisé comme ça forcément. Ouais.
Non mais ce qui est hypocrite c'est que
il veut faire un mondial. Je comprends pas en fait son truc, c'est qu'il parle de, enfin vous me parlez de faire des matchs en moins et lui son projet c'est de faire des matchs en plus, donc je comprends pas son interview.
Exactement.
C'est sûr.
Dans quelques instants, on est de retour. On va continuer le débat. On va retrouver Jérôme Rotten. Peut-être que son chien a mangé les fils de la machine. On va voir. En tous les cas, il sera de retour avec nous dans quelques instants. On continue le débat. Simone va nous parler de la Sampdoria. Et derrière, attention à 23h, les propositions pour le football idéal de Pierre Ducron. Attention, ça va envoyer. C'est juste après 23h. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Simone Rovera et Jérôme Rotten qui sera de retour très vite, on l'espère. Les gars, pas mal de réactions encore sur Infantino. Tu vois, je vous en livre une comme ça. J'ai Alex qui est niçois qui lui dit c'est très simple, faut supprimer les super coupes, ça sert à rien les super coupes. C'est vrai qu'il y en a plein des super coupes, super coupe nationale, super coupe d'Europe. On supprime aussi la Coupe du Monde des clubs, on revient à l'Euro à 16 et la Coupe du Monde à 32.
Mais quand on connaît le football et son histoire, Gilbert, excuse-moi, mais à l'arrivée, on sait ce qui compte et ce qui compte le moins. Qui compte moins quand même dans le foot. Hein.
En effet.
Ben voilà.
Alors.
Non mais alors une
oui,
chose.
Simonet, bon, parce qu'après, pour conclure peut-être.
Y a les deux. Alors trois choses rapides. Un, que la Gazette explique qu'il y a un petit papier derrière qu'on peut dire écrit derrière l'interview où explique un peu quelles sont les idées d'Infantino. Et une des choses à combattre pour lui, c'est aussi les coupes inventées en été, les international caps comme ça, qui sont des sortes de super ligues privées avec plein d'argent, et utiliser des dates même en pré-saison peut-être pour réorganiser les calendriers et avoir plus de temps pour faire des compétitions, bien sûr, qui peuvent apporte de l'argent à lui. L'autre chose qu'il dit, c'est qui c'est important, c'est sur les agents. Lui, vous savez, il y a une grosse guerre ouverte entre certains grands agents et la FIFA par des réformes que veut faire Infantino. Et lui, il dit chaque été, chaque été circule parfois par des paradis fiscaux environ 7 milliards d'euros de transferts internationaux. C'est le secteur économique moins réglementé au monde. Et chaque fois que la police ou la finance fait des contrôles, trouve quelque chose. Même les bons agents, si on fait une réforme, vont avoir des bénéfices. Et la dernière chose sur
le bar. Il faut parler avec Pierre de ça.
Non, mais c'est surtout, alors bon, les 7 milliards, c'est pas moi, je vous rassure.
Pierre, toi,
non,
c'est plutôt Caïman ou il vient, je fais,
c'est où? Non, mais moi, c'est surtout que ça me fait à chaque fois très, très rire quand j'entends ce monsieur ou d'autres dire que c'est le secteur le moins réglementé. C'est pas du tout vrai. En fait, ils savent très bien qui prend 98% de ces 7 milliards. Ils le savent pertinemment qui c'est. Ils savent, il y a les noms. Enfin, voilà,
c'est très bien.
Ce sont les plus gros agents. Ce sont des messieurs qui jouent les intermédiaires, mais qui ne sont même pas agents. Et ça, c'est même plus le problème du football, c'est le problème de la justice après derrière. Le métier d'agent, si tu le fais correctement avec une licence d'agent, avec ta fédération, avec ton club, avec des joueurs mandatés, il est très réglementé, le métier. Voilà, point. C'est juste qu'il y en a qui contournent ces règles-là et qu'on leur dit rien. Il a qu'à s'attaquer à ces gens-là, qu'ils le fassent.
La dernière chose, ils défendent très très fort la VAR en disant, demandez aux critiques s'ils voudraient revenir à l'âge de la pierre entre 2020.
On veut l'âge de la pierre, nous. On veut l'âge de la pierre, nous. Nous, on est comment s'appelle le dessin animé là, Simone, là, avec l'âge de la pierre là, Flintstone là, Flintstone. Ouais, c'est les Flintstones là.
Oui, oui, bien sûr. Et
c'est Pierre à feu, je crois. En français, c'était Pierre à feu, je crois.
Ah, Pierre à feu, ah oui.
Oui, oui.
Ou le film de la Chamba.
Des cavernes, là, voilà.
Et qui est entre 2020 et 2023.
Avec Gilbert, on est Pierre à feu, nous.
Investir sur une VAR plus légère. Économique et plus fonctionnel.
Et t'écoutes pas, mon Simonet.
Ben si, moi j'ai tout entendu.
Non, sur la VAR, on n'écoute pas, on n'écoute rien.
Non, mais là, on a.
Quand même, il promet une VAR plus légère, plus économique et plus fonctionnelle. Donc,
D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Tu sais que moi, Seferin, qui se fait allumer, enfin, qui Infantino élu, s'aime pas et tout. Enfin, pardon, Seferin, il connaît mieux le foot qu'Infantino. Et quand il en parle, c'est autrement plus structuré et pensé. Et je dis pas ça parce qu'il est contre le VAR, ou en tout cas qu'il se pose sérieusement des questions parce qu'il dit chez nous c'est le gros bordel, il faut qu'on change tout.
À la base, franchement, il était contre. Il a cédé, mais contre son gré.
Non, mais t'as vu qu'il veut y revenir là.
Hein, oui, non.
Seferin, c'est la déclaration.
Seferin, il est plus dans notre camp. Et on va dire qu'il est derrière la porte. Il a envie de rentrer.
Il n'est pas tout à fait dans ton camp, Daniel, sur la ligue fermée, Seferin, parce que il explique par A plus B.
Non, mais ça c'est autre chose, c'est un autre débat, ça.
Que oui, mais toi t'es plutôt pour.
Non, moi je discute. Il y a des dossiers, je suis pas obligé d'avoir un avis complètement tranché. J'aime discuter, savoir un peu, mettre des éléments sur la table. Je suis pas complètement tranché là-dessus.
T'es même prêt à écouter les arguments des autres?
Ah ouais, ça dépend lesquels. Il faut que ce soit d'un certain niveau. Il faut que ce soit niveau.
Si tu pouvais nous dire lesquels, ça nous arrangerait de nous faire une petite liste, mon Daniel. Ça serait pas mal.
Ok, Pierrot, ça ferait ça.
Bon, Simone, on va changer complètement de sujet avec toi, si tu le veux bien. On va parler de la Samp. Parce qu'on a décidé, et c'est une proposition qui nous est venue sur le hashtag story, Mon After. Et oui, c'est After Story. Pourquoi? Parce qu'on a le temps de le faire et que souvent, les plus jeunes qui nous écoutent ou voire même les plus anciens qui veulent se remémorer quelques grands moments de leur jeunesse ou d'autres années, bref, nous disent, mais pourquoi vous ne reparlez pas de certains clubs qui ont fait des épopées, Kaiserslautern en Allemagne, l'autre jour on a parlé de Tenerife en Espagne, et ce soir, on a choisi, Simone, avec toi, de parler de l'époque glorieuse de la Sampdoria de Gênes, au tout début des années 90.
Grande équipe. Oui.
Après, il faut pour certaines, et je sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît pas la Sampdoria entre ceux qui nous écoutent, quand est née la Sampdoria, en 1946, après la guerre, il y avait trois équipes à Genova, les Genoa bien sûr, la Sampier d'Arenese et l'Andrea Doria. C'était trois équipes, donc Sampier d'Arenese et Andrea Doria sont fait une fusion, sont devenus un seul club, Samp et Doria. C'est pour ça que
je connaissais pas cette histoire.
C'est énorme. Imaginez qu'il est lendemain de
aujourd'hui le club le plus supporté à Gênes, c'est la Samp ou c'est le Genoa?
Non, c'est toujours le Genoa, je dirais.
C'est toujours le Genoa.
L'historique.
Les supporters Genoa, de la Samp, on les appelle les Doriani, les Dorian, comme Pierre Dorian, oui. Tu vois.
le Genoa, c'est quand même l'équipe, les clubs les plus historiques.
Il y a un truc un peu social, genre, je sais pas, plutôt les ouvriers pour Genoa, les autres pour la Samp ou l'inverse. Enfin, je sais pas, il y a un truc.
Non, moi, j'y dirais pas. C'est
plutôt cœur de la ville et le club nouveau, un peu club nouveau, club
oui,
ancien,
c'est,
tradit.
C'est sûr. C'est sûr, c'est un club qui est né en 1946 contre l'autre club qui se.
Et c'est le club doyen. Clubs. Le Genoa, c'est le club doyen en Italie.
Oui, 1893, l'année de fondation.
C'est un
donc,
peu comme le Havre en France.
Il y a une histoire légendaire derrière.
Bon, voilà, les premières Pierre années. Alors que le Havre, il y a eu Pierre Ducrot quand même.
Avantage, inconvénient.
Voilà.
C'est 9 titres des champions d'Italie, Genoa. Hein. On l'oublie, mais c'est bon, une des équipes. C'est l'équipe qui a gagné plus de titres derrière les trois grandes équipes du Nord, Inter.
Alors, qu'est-ce qui a fait que cette Sampdoria, donc club assez jeune, a tout à coup fait des résultats incroyables au début des années 90?
C'est pas tout à coup, c'est-à-dire il y a une histoire derrière des constructions, parce que en 1979 arrive un nouveau président qui c'est Paolo Mantovani, qui c'est un entrepreneur qui travaille dans les pétroles, qui est devenu riche, qui est parti avec rien et devient très très riche. Et en 82, il y a la promotion en Serie A après plusieurs années en Serie B. Donc, 82, ça commence.
C'était
un
quoi
peu
son entreprise? C'était super connu. C'était des pompes d'essence super connues. Non,
c'est pas ERG.
ERG. Ouais, c'est les pompes d'essence. Ouais,
non, ERG, c'est Garrone. C'est l'autre président de la Sampdoria qui est derrière, si je ne me trompe pas. Mais.
Ok, continue. C'était pas cette pompe d'essence.
Non, voilà. Là, tu mets tous une question.
Bon, bref, ils étaient dans l'énergie, quoi, les gars. Voilà.
Dans les pétroles. Dans les pétroles.
Ils avaient le pétrole et les idées. Ok, voilà.
Et oui, les idées, bah là, on verra tout de suite quelles sont les idées. Parce que la promo, ils montent en Serie A en 82. 82, bon, c'est un peu les débuts du grand boom de foot italien, champion du monde, les foot italiens en train de gagner plein de titres européens dans les années suivantes, l'arrivée de Maradona, Platini, bon, vous savez, il y avait
Berlusconi
le jeune
qui arrive à Milan, c'est un peu le début de l'âge d'or.
C'est le début de l'âge d'or. Il y avait un jeune de 17 ans qui tout le monde voulait à l'époque, mais tout le monde. Il venait de Bologne, il était de Iesi, il jouait à Bologne, il s'appelle Roberto Mancini. Et lui, il achète pour 4 milliards. À l'époque, c'était une somme incroyable.
4 milliards de lire.
C'est un 4 milliards de lire.
Un joueur donc, fabuleux, Mancini.
Enfin, rappelle que 4 milliards de lire, écoute, hein. Ça fait que ça faisait combien en euros, 4 milliards de lire?
Bah, aujourd'hui, ça serait 8 millions d'euros.
2 milliards de francs. À l'époque.
Comme ça.
C'était en gros, il fallait, c'était par deux la lire.
Si on fait, j'ai fait une comparaison sur un site d'une gros site d'un journal économique italien qui tu donnes les montants de l'âge, donc 4 milliards en 82, aujourd'hui serait, elle me dit, 8 millions d'euros. Donc
d'accord.
Un jeune de 17 ans, ouais, pour une équipe qui venait de monter.
Oui, non, c'est pas 2 milliards de francs. C'est Daniel et les maths, laisse tomber.
J'ai foiré ma division, pardon.
C'est 200 000.
Ah, il y avait des zéros de trop, là, pardon. Mais ce que je sais, en revanche, c'est que Roberto Mancini était un joueur extraordinaire.
Oh oui. Ah, oui.
Et donc, en 82, une équipe promue s'achète la pépite un peu du foot italien de l'époque. En 84, arrive un certain attaquant qui faisait très bien en série italienne. Oui. Qui s'appelle Gianluca Vialli. Et cette année-là, c'est.
Et ça devient le duo première de choc.
Ouais, c'est les gemelli del gol, les jumeaux de but, on l'appelait en Italie. Et cette année-là, elle gagne la première, les premiers trophées de l'histoire de la Sampdoria, et c'est en Coupe d'Italie. En 86, arrive un certain entraîneur qui je ne sais pas si ça dit quelque chose en France, mais c'est légendaire. C'est Bujadin Boskov. Bujadin Boskov arrive de Ascoli. Il avait fait.
Je m'en rappelle
il
pas.
Il avait promu Ascoli de la Serie B à la Serie A. Mais
entraîneur
avant,
un peu novateur, qui prenait le jeu et tout. C'était.
Lui, on parle de 86. Boskov a commencé à entraîner en 61. Donc, ça fait déjà 20 ans qu'il a entraîné. Il a été entraîneur de Real Madrid avant. Il avait fait une Liga avec Real Madrid, une finale de Ligue des Champions, deux Coupes du Roi. Et après Real Madrid, il arrive à entraîner Ascoli en Serie B. Imaginez quel était le foot de l'époque. On ne pouvait pas imaginer ça aujourd'hui. Et avec Boskov, les choses commencent à arriver à aller mieux. Il commence la Sampdoria, qui après ses premières années avait fait septième, commence à faire cinquième, quatrième. Il gagne encore deux Coupes d'Italie. Il fait une finale des Coupes des Coupes face au Barça. Il perd 2-0 après à Berne face au Barça des Coupes, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et l'année suivante, 88-89, ils font 89-90, encore Coupe des Coupes, encore finale, cette fois, ils gagnent
Et ils doivent éliminer Monaco sur le chemin. Ils doivent éliminer Monaco en cours de route, il me semble.
En demi-finale, si je ne me trompe pas.
C'est ça, exactement.
2-0 avec doublé de Gianluca Vialli. Et chaque année, quand même, les précédents Mantovani achetaient des nouveaux joueurs, des joueurs importants. Il y a eu Mannini, il y a eu Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, c'était.
Cerezo, c'était un joueur clé de cette équipe,
à l'époque, Cerezo. C'était celui qui donnait les rythmes, qui faisait les jeux. Et Toninho Cerezo, à l'époque du Grand Brésil de 82, quand il y avait Sócrates, Zico, Falcao, lui, il était les nuls. Parce qu'il était les nuls entre tous les autres. Et lui, il les disait. Il disait, quand il y avait Sócrates et les autres, moi, j'étais les nuls. Ici, je peux montrer que je ne suis pas nul. Mais c'était normal à l'époque.
Il y avait dans les buts aussi. Moi, je me rappelle de Pagliuca dans les buts.
Voilà. Pagliuca commence à jouer en 87. C'était les remplaçants au début. Il devient les gardiens titulaires de la Sampdoria. Il fera une carrière extraordinaire. Donc, année après année, il achète des joueurs qui sont...
Attilio Lombardo arrive, qui est un joueur
Attilio Lombardo arrive très fort, cette année-là de la victoire en Coupe des Coupes avec Katanec, un Slovène.
Katanec, c'est un très bon joueur aussi. Il n'y avait que des bons joueurs dans cette équipe.
Excusez-moi, mais il y avait aussi le mythique Pietro. Comment tu dis en italien ?
Vierkowood.
Vierkowood arrive.
Vierkowood.
Vierkowood est acheté en 82. Mais pour.
C'est d'origine ukrainienne, pour son nom. Hein. C'est pas très italien, mais ouais.
On l'appelait le tsar. Le tsar Vierkowood.
Et il est resté jusqu'à quand, Simonet ?
Il a joué jusqu'à 65 ans, Vierkowood.
Oui, après,
il était vieux.
Il est passé à la Juve et au Milan.
Ouais, non, mais à la Samp, il est parti de quand, de la Samp ? Il est resté longtemps à la Samp ?
Attends, mais j'ai sa fiche sous les yeux, je vais te dire. 83 à 95.
15.
Voilà. Putain, c'est marrant, j'ai pas
Donc, il a fait des années. Vierkowood, qui était déjà acheté en 83, mais 82, mais pour une promesse que Mantovani avait fait à l'ancien président de la Roma, il a fait une année de prêt de Vierkowood à la Roma, et cette année-là, la Roma, si je ne me trompe pas, a gagné.
Oui, c'est l'année du titre. L'année du titre de 83.
Donc, on arrive à cette année 1990-91, début des saisons. Pour vous dire, la Sampdoria avait gagné, oui, la Coupe des Coupes, mais c'était vraiment l'âge d'or du foot italien. La Juve venait de gagner la Coupe UEFA, la Juve des Badges, la Juve des Schillaci, après les Notti Magiche, donc la Coupe du Monde 90. Milan était champion d'Europe, champion du monde aussi.
Naples avait gagné la Coupe d'Europe,
des Néerlandais,
tout le monde.
L'Inter, c'était l'Inter des Allemandes, de Klinsmann, Brehme, Matthäus. Naples, c'était quand même Maradona, Carrick, Alemão.
Le Milan des Hollandais.
L'âge d'or du foot italien, quoi.
Toutes les années 90, ça a duré. Il y a le Milan des Hollandais avec Sacchi.
Incroyable. Gagner un titre sur cette année-là, Naples avec Maradona, il en a gagné deux dans cette période-là. On dirait qu'une équipe avec Maradona devrait gagner 10 titres par an, tellement elle était supérieure ces jours-là. Il n'a gagné que deux. Et donc, la Sampdoria, cette année-là, arrive à gagner ses titres avec un match clé qui c'est les matchs retour face à l'Inter à 4 journées de la fin. L'Inter qui était en lutte vraiment point par point avec la Sampdoria, avec une victoire 2-0 à San Siro et avec un pénalty raté de Matthäus que cette année-là, il avait frappé 11 et c'est le seul qui rate, qui s'est arrêté par Pagliuca. Matthäus aussi, Ballon d'Or. Donc, il y avait vraiment une concurrence incroyable. Et la chose.
Alors, attends, à ce stade, Simonet, je t'arrête parce que on a retrouvé l'extrait du titre de 91 dont tu parles. Bon, en italien, hein, bien sûr, ça donnait ça, le titre de la Samp.
L'intervento di Zunico, poi il tiro di Mannini, gol! Che gol! Moreno Mannini! L'appoggio a Cerezo, il tiro! Lecce Lombardo, Vialli e sono tre! E sono tre! Sampdoria 3, Lecce 0! Che allontana la palla, è finita! È finita! E scudetto per la Sampdoria!
E voilà, le scudetto per la Sampdoria.
3-0 face à Lecce, c'était l'avant-dernière journée de ce championnat. Mais pour vous dire la force de cette Sampdoria cette année-là, il gagne à domicile face à Roma, Inter, Juve, Milan, Napoli et en déplacement, il gagne à Milan, à Naples, à Milan face à l'Inter, à Roma aussi. Ils font le match nul à Turin face à la Juve. Donc, il gagne avec tous les gros. C'est-à-dire, c'était une équipe, c'est une machine, vraiment. Et il y avait quand même des critiques sur le fait que Boskov, qui était quand même un peu vieux à niveau de mentalité, on le considérait, parce que lui jouait sur le marquage individuel. Et c'était un peu le début des années des Sarr, qui donc la zone...
Ça s'inspirait de Giroud, il paraît.
je sais pas. Et Boskov disait, mais pourquoi je dois jouer avec Lazon quand j'ai Vierkovoud et Manini qui sont les deux meilleurs stoppers au monde, sont les deux meilleurs dans les marquages individuels au monde. Pourquoi je dois changer?
Vierkovoud, c'est un poète en plus. Hein.
Ah bah c'était un boucher, oui. C'est une sorte de William Prunier italien. Ah, attends, Simonet, on va continuer juste après 23 pour arriver à la fin de l'histoire, c'est la finale de la Ligue des Champions.
L'année d'après. C'est ce qui aurait dû être l'apothéose de la période.
Exactement, contre le Barça. On revient dans quelques instants pour que tu nous racontes ça et on retrouvera Jérôme Rantaine puisque ça y est, il a réussi à rebrancher sa machine. C'est magique. Vive le radio-travail. Et à tout de suite dans l'after avec Simonet, les propositions pour le football idéal de Pierre Ducrot et puis le PSG en 2008 avec Jérôme Rantaine sur le terrain qui brillait de mille feux. C'est au programme de l'after dans la deuxième heure avec Julien Cazard qui arrive.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.